boule vanille. J'aime bien la framboise.
Je pense que je prends deux boules vanille.
Deux boules vanille.
Deux boules vanille.
Salut, c'est Lucie. Tout au long de l'année, vous m'entendez plutôt dans l'émission d'information locale La Reine, qui reviendra à la rentrée au mois de septembre. Là, ce que vous vous apprêtez à écouter, c'est Deux boules vanille, une carte blanche qui est laissée aux équipes de la radio pendant la période estivale. Et dans l'émission du jour, on va parler d'un sujet qui tombe à pic en pleine saison touristique. Je veux parler des algues vertes sur nos plages bretonnes.
Vous voulez bien me raconter ce qui s'est passé?
Ouais. D'après ce qu'on sait, Thierry a quitté l'entreprise vers 8h.
Il va charrier des tonnes de boues d'algues vertes en putréfaction, dégageant de l'H2S, l'un des gaz les plus dangereux du monde.
Et on est allé reconnaître le corps avec la gamine.
Mon fils, il était tout noir.
Ils ont dit que c'était une mort naturelle.
Mais l'enquête continue, non?
C'est aux autorités de décider si une enquête continue ou s'arrête, Madame Leroux.
Bonjour, je suis journaliste et je fais des reportages sur la Bretagne. Je vous appelle au sujet des algues vertes.
Et c'est à cause de l'agriculture, c'est ça?
C'est ce que je voudrais savoir.
Je suis désolée, mais ça va pas être possible.
Ils font tout pour pas me parler.
Dès que tu t'approches des algues vertes, ça pue dans tous les sens du terme. Je pense même que ça peut être dangereux.
Vous abusez pas à foutre par terre notre belle région.
Si je tombe mal...
Mais tu tomberas toujours mal.
Lâchez la mort ce que vous faites.
Vous êtes comme qui dirait la femme à abattre.
Vous savez, tout le monde a peur dans cette affaire.
Faut comprendre qu'ici, chaque famille a quelqu'un qui travaille dans l'agro.
Vous, la FNSEA, c'est vous qui choisissez les ministres de l'Agriculture?
C'est pour ça que les agriculteurs nous élisent.
Vous savez ce que c'est, la vraie violence?
C'est le prix du lait. 30 centimes le litre, depuis 30 ans.
Tes reportages, ils font trop de remous.
Les écolos vont encore nous faire chier.
Les autorités mentent et jouent avec la vie des gens.
Faites attention à vous, quand même.
Nous sommes en guerre, Madame Leroux. C'est une vraie et grande guerre économique.
Il faut que vous soyez vigilants un jour ou l'autre. Vous les aurez face à face, les yeux dans les yeux, les victimes de votre guerre.
Aperçu du film Algues vertes de Pierre Jolivet à voir en salle depuis le 12 juillet. Au casting, on retrouve Céline Salette dans le rôle de la journaliste Inès Leroux qui s'installe en Bretagne et mène l'enquête sur les conséquences sanitaires de la prolifération des algues vertes en lien avec le modèle agricole intensif. Je laisserai les auditeurs aller découvrir le film. Pas d'analyse de cet objet cinématographique de ma part, mais de son utilité puisqu'il semble à la fois attirer un public nombreux en salle et créer le malaise dans la sphère politique. Il faut dire que l'équipe du film confie un tournage rendu difficile par l'entrave de certains élus. Et dans un court billet, eh bien, je vous propose de vous raconter quelques anecdotes de tournage qui montrent, dans le prolongement du film, la sensibilité sur ce sujet du modèle agricole breton. Il y a d'abord un maire, celui de Saint-Michel en grève, où est décédé un transporteur d'algues vertes, et un président d'intercommunalité pour Lannion-Trégor Communauté, qui se sont ouvertement opposés dans la presse à ce projet de film. Et ça, ça veut dire pas d'aide au tournage. Très concrètement, les équipes d'un film, elles ont souvent besoin d'arrêtés municipaux pour bloquer la circulation à certains endroits. Elles ont également besoin de bâtiments mis à disposition pour arranger des loges, installer une cantine, tourner certaines scènes aussi. Pour les scènes de plage, les municipalités n'ont pas leur mot à dire puisqu'elles appartiennent à l'État. Mais un maire s'est quand même tourné vers la préfecture pour voir les moyens possibles d'empêchement. Les obstacles prennent aussi la forme d'hôtels qui disent oui pour tourner une scène, puis non au dernier moment. Conséquence de ces blocages, l'équipe a donc beaucoup tourné caméra à l'épaule. Elle a aussi dû aller tourner plus loin que prévu pour trouver des communes amies du projet, s'appuyer sur le soutien d'entreprises pour tourner des scènes d'intérieur et puis d'habitants pour installer la cantine dans un jardin. Ces derniers ont aussi été d'une aide précieuse pour réserver à un moment des places de stationnement près d'une plage pour que les équipes puissent ensuite y garer leur véhicule. Du jamais vu pour la personne de l'équipe du film qui m'a confié ces éléments. De l'opposition mais aussi du soutien, on l'a dit, de communes amies, comme celle de Plestin-les-Grèves, qui après un long temps d'explications a fini par comprendre le projet du réalisateur. Pas de volonté de nuire au tourisme, mais bien d'informer sur des choses qui se sont vraiment passées dans la région. Du côté des fermes, des agriculteurs conventionnels ont accueilli les équipes de tournage, là aussi parce qu'elles ont compris le projet, et eh bien, le soutien d'une partie des habitants et d'associations a par moment réussi à faire bouger les lignes. Un SMICTOM, c'est un syndicat de traitement des ordures, a finalement fait marche arrière après un non initial pour qu'une scène soit tournée dans la déchetterie où travaillait Thierry Morfoise, le transporteur d'algues vertes décédé près de son camion. Un seul épisode de menace de la part d'un agriculteur a finalement été relevé durant le tournage sous couvert de blagues. Ça, puis quand même cet élu dont le personnage apparaît dans le film, qui demande dans la vraie vie à rencontrer le réalisateur Pierre Jolivet seulement quelques jours avant le tournage sur une plage de la commune concernée, avec la menace qu'il y aura des suites si c'est la version de la journaliste Inès Léraud qui est racontée à l'écran. La région Bretagne, pour terminer, elle a publié un communiqué début juillet au moment de la sortie du film pour rappeler qu'elle avait versé une subvention de 250 000 euros au projet de film, sans préciser qu'il y avait eu des hésitations et que la droite s'était prononcée contre. Les macronistes, on le rappelle, s'étaient eux abstenus. Et la région poursuit dans ce même communiqué en semblant plutôt satisfaite des chouages d'algues vertes moins importants cette année. Ailleurs, pourtant, on lit que la prudence est de rigueur car des conjonctions météo défavorables pourraient entraîner de grosses proliférations d'algues vertes. Et, on termine là-dessus, l'idée d'une projection du film dans l'hémicycle du Conseil régional avait été imaginée mais écartée par la majorité. Il n'y aurait pas le matériel pour ça et puis il y a tout un tas d'autres films intéressants financés par la région. Bon. Alors, on a du monde en studio pour continuer, prolonger la discussion suite à la sortie du film Algues vertes en salle. Tout d'abord, Yann Yanoffray, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente et je vous remercie déjà d'avoir accepté mon invitation. Vous menez un combat qui est toujours d'actualité avec votre famille devant la justice pour que le décès de votre papa, Jean-René, qui est décédé en 2016, que ce décès soit reconnu comme lié aux algues vertes, c'est le sujet de l'émission du jour. Et votre histoire, elle est au cœur du film de Pierre Jolivet qui est sorti le 12 juillet au cinéma. Et à côté de vous, Florian Barbotin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, membre de la LPO Bretagne, Ligue de protection des oiseaux, mais qui fait bien plus que protéger les oiseaux, qui se trouve apparaître au générique du film et puis surtout qui défend un modèle agricole plus vertueux avec un tout nouveau collectif qui vient de se lancer et qui s'appelle Paysans de nature. Voilà pour les présentations. On va commencer par raconter votre histoire aux auditeurs, Yann. C'est une histoire qui a déjà été rendue publique dans la bande dessinée de la journaliste Inès Léraud en 2019, réalisée avec Pierre Van Hove aux éditions Delcourt, et 150 000 exemplaires de cette bande dessinée ont trouvé des lecteurs. Une bande dessinée qui est maintenant adaptée au cinéma sous la forme d'un film qui prend des airs de polar. Je voulais d'abord vous demander comment est-ce que vous vivez avec votre famille le fait que cette histoire qui est évidemment douloureuse devienne maintenant l'objet d'un récit et soit racontée au public. Il y a d'abord eu la bande dessinée peut-être que vous avez lue.
Ouais, ça a été fait en deux temps. Dans un premier temps, il y a eu la BD où on était loin d'imaginer le succès qu'elle allait avoir parce que c'est un sujet qui est essentiellement breton. Qui est très territorial. Nous, on avait vu quelques planches de la BD que Inès avait accepté de nous montrer pour voir un peu vers où ça allait nous mener. On a été d'accord avec tout ce qu'elle a fait. Et après, du coup, il y a eu le succès de la BD. On était super contents que plein de monde la lise, que le sujet soit mis sur la table. Et elle nous a aussi apporté des éléments de réponse, des outils de compréhension, parce que nous, on s'est retrouvés baignés dedans malgré nous. Ça n'a pas été un choix, c'est comme ça. Et cette BD, du coup, nous a apporté des réponses, des pistes de réflexion, et un peu des pistes à suivre aussi pour nous, pour aussi voir le passé, voir qu'il y a aussi l'affaire Morfoise qui est aussi en lien avec les algues vertes, et on n'était pas très conscients au moment-là. Et après, du coup, quand on a appris qu'il y allait avoir un film, ça restait dans un premier temps très virtuel pour nous. C'était un peu... ça nous dépassait totalement, c'est des choses qu'on voit typiquement qu'à la télé. Je pense qu'on n'a pas réalisé sur le coup, on s'est dit ok, de toute façon, tant mieux, ça, on va en parler. Et du coup, plus le temps passait, on a pu avoir accès un petit peu au scénario, on a vu les actrices, les acteurs qui étaient recrutés, du coup on voyait que le projet commençait à grandir et ça devenait de plus en plus concret. On a été participer à quelques scènes du tournage, ma mère et mes sœurs sont figurantes dans une des scènes. Du coup on a essayé de vivre aussi le film plus que de subir en fait tout ce qu'on a subi, on préfère devenir vivre les choses. Et du coup, là, il y a eu beaucoup d'avant-premières. Et je pense qu'il va nous falloir plusieurs mois pour réaliser ce qui se passe sur les gens, comment ils vont voir notre histoire, comment ils vont l'interpréter. L'objectif, c'est que ça fasse du bruit et que c'est pas tant pour nous, en fait. C'est pas notre histoire familiale qui est importante. C'est ce que tout le monde peut subir sur ce problème. Et l'idée, c'est de communiquer là-dessus pour qu'on limite la casse et que ça se reproduise plus. Donc certes, ça parle de notre famille et ça, on est directement concerné, c'est nos noms. On a fait le choix de garder nos noms, prénoms. Parce que c'est important, en fait. Il y a de la fiction, mais la part de vérité est aussi très très importante pour que les gens ils captent que ça peut les concerner aussi. Du coup, on va réaliser, je pense, beaucoup plus tard. Mais il y a toujours des moments forts dans les avant-premières quand les gens se lèvent et applaudissent. En fait, c'est pas nous qui applaudissent, c'est le film. Mais
c'est aussi une forme de soutien et puis d'encouragement à poursuivre ce combat.
Carrément. Et du coup, c'est des gens qui, avec différents niveaux de conscience, à mon avis, sur le sujet, des gens qui ont lu la BD et qui se sont renseignés au-delà de la BD et qui connaissent plein de choses, des gens qui ont juste lu la BD, des gens qui n'ont pas lu la BD. Et en fait, les réactions sont plutôt similaires partout, dans toutes les salles, où les gens sont satisfaits de l'avoir vu. Et ça met du visuel aussi sur l'omerta, en fait, de l'agroalimentaire en Bretagne.
Les séances, elles ont fait salle comble. Il y a eu donc de nombreuses avant-premières dans la région Bretagne avec l'équipe du film qui était surprise de voir autant de monde. Et puis ça continue à Rennes, le cinéma Larvor, cinéma associatif, et pour l'instant très satisfait de voir les salles remplies pour ce film qui est sorti le 12 juillet. Dans ce film, l'un des événements qui relance le travail d'enquête d'Inès Léraud, c'est donc le décès de votre papa. Je vais rappeler les éléments pour les auditeurs qui n'ont ni lu la bande dessinée, qui n'ont peut-être pas encore vu le film. Décès qui est survenu en septembre 2016 dans l'estuaire du Gouessant. On est à Ilion, c'est vraiment pas loin, c'est à une heure de Rennes, tout près de Saint-Brieuc. Votre papa, il avait 50 ans, il était du genre sportif, il était d'ailleurs en train de faire son jogging, et les autorités font se diriger plutôt vers la piste d'une crise cardiaque. Ce sont en fait les associations environnementalistes, on la cite, cette association Alto Marée Verte, qui va penser aux algues vertes et à l'impact de l'hydrogène sulfuré sur le corps humain. Mais l'autopsie aura lieu trop tard pour le prouver, d'où votre combat qui continue aujourd'hui. Et dans le film, on entend la douleur de votre maman qui est interprétée par Julie Ferrier, qui explique notamment le temps dont elle a besoin pour se défaire d'une certaine culpabilité face à ça.
Nous, le soir de la nouvelle, en gros, dès le début, on a été dépossédés, en fait, de ce qui se passait, des événements. Les responsabilités qui auraient dû être prises n'ont pas été prises. Que ce soit sur l'autopsie, en fait, on est venu nous demander est-ce qu'on veut faire une autopsie, sauf que quand il y a un accident de voiture, on ne demande pas aux gens si on fait une prise de sang. C'est d'office. Nous, on nous a posé cette question, on nous a mis face au fait. On nous l'a posé plusieurs fois, à plusieurs moments différents. On a toujours refusé parce que, on a appris le décès, on était sous l'eau. On était noyés et on a été confrontés aussi à... On a été objectisés dans le sujet des algues vertes. Les assos qui mènent un combat ultra juste ont commencé à prendre en main le sujet, sauf que nous, on était à des kilomètres et des kilomètres de savoir ce que c'était. Et puis après, les médias ont commencé à parler à notre place. Du jour au lendemain, on a appris que mon père était agriculteur, qu'il avait 4 enfants. Il y a eu toute une vie qui a été inventée et tout le monde parlait à notre place. On voulait pas prendre la parole, mais du coup les gens nous ont donné une parole. Donc on a subi pendant très longtemps et on voyait tout ce qui se passait dans les médias. Les autorités qui faisaient une politique molle, puisque vous voulez faire une autopsie, ce que vous voulez pas. En fait, vous avez des responsabilités, vous êtes élu, vous êtes placé là, vous assumez vos responsabilités. Personne ne l'a jamais assumé ça. Et toujours aujourd'hui, il y a toujours un déni, il y a toujours une omerta. On a vraiment été manipulés, sans s'en rendre compte. Enfin, c'est l'objectif de la manipulation, mais du coup, on a été dépossédés. Et du coup, justement, le film, en fait, permet de mettre un peu en avant cet aspect-là. Enfin, il faut se rendre compte que le jour de l'enterrement, la gendarmerie nous a appelés pour nous convoquer. C'est dire à quel point ils sont déconnectés. Et du coup, le film met un petit peu en lumière ça. Et je voudrais aussi remercier l'équipe du film, en fait, qui est ultra mobilisée. Parce que, bon, ils ont fait le film, c'est aussi un sujet qui les met en avant. Mais ils sont présents sur... sur les avant-premières, ils font énormément d'interviews. Ils en parlent, pas forcément que dans les avant-premières, autour d'eux. Et du coup, ils interprètent un rôle dans une cause qui est énorme et qu'il faut prendre en main et qu'il faut que tout le monde la connaisse.
le film, il se termine avec la mention que votre famille a été déboutée devant les tribunaux. Ça a eu lieu à l'automne dernier, car vous avez attaqué en famille la mairie d'Illion, la communauté d'agglomération de Saint-Brieuc et puis la préfecture. Objectif, voir reconnaître la faute commise par les autorités publiques. On rappelle qu'une trentaine de sangliers avaient déjà été retrouvés morts sur le même lieu en 2011. Et le second objectif, c'est de faire indemniser votre famille pour le préjudice qui a été subi suite au décès de Jean-René Auffray. Cet appel, il n'y a pas de date pour le moment. Comment est-ce que vous l'abordez? Il faut donc garder cette énergie combative jusqu'à la date du procès en appel.
Ouais, nous, il a un double objectif cet appel. Le premier, c'est en fait de faire reconnaître la responsabilité de l'État dans l'ingérence en fait sur le problème des algues vertes, que les responsabilités soient prises et que les responsables soient mis aussi devant leurs responsabilités, devant les faits. Et
parce que par exemple, il n'y avait pas de signalétique en fait sur le lieu jusqu'en 2016, c'est ça ?
Il y a eu de la signalétique qui a été enlevée par la municipalité ensuite. Du coup, il y avait des panneaux, mais le panneau il doit être à 2 km du lieu. Mais non, il n'y avait pas de panneau sur le lieu alors qu'il était accessible, il l'est toujours, il me semble. Et du coup, le premier objectif, c'est que l'État, avec un grand E, soit mis face à ses responsabilités et arrête la politique de l'autruche. Et du coup, prennent de réelles mesures. Le plan algues vertes, c'est de la foutaise parce qu'il sert juste à faire du contrôle qui, les trois quarts du temps, ne sont pas réalisés. C'est incitatif, c'est pas contraignant. Et c'est essentiellement ramasser des algues. Sauf qu'on va ramasser des algues toute notre vie, ça va coûter méga cher à tout le monde, tout le temps, si on cherche pas à résoudre la cause. Et pour l'instant, les réponses politiques actuelles, c'est ça. Et du coup, on veut dépasser en fait juste cette espèce de pseudo-plan algues vertes qui est complètement stérile à l'échelle bretonne et à l'échelle nationale. Ça, c'est le premier objectif. Et le second, c'est juste un objectif de communiquer. Nous, on considère que tant que le procès il est en cours, on continue d'en parler dans les médias, on fait un film. Des associations se montent, des collectifs se créent, des associations prennent en main aussi le sujet, parce que c'est avant tout un problème environnemental, ça se limite pas aux algues vertes, c'est essentiellement un problème d'eau. Et du coup, c'est ça le deuxième objectif, c'est mettre du bois dans le feu pour que ça s'alimente encore et encore et encore. Et du coup, ça, c'est ce que nous, on peut faire pour la cause. C'est pas quelqu'un d'autre qui va faire appel à notre place. Du coup, on prend cette responsabilité et on y va. Et puis, s'il faut aller plus loin que l'appel, on ira plus loin que l'appel, en fait, tant que ça fait du bruit.
Ce qui est intéressant, c'est que vous rendez visible, là, à travers ce combat, ces algues vertes. Il faut dire que les algues vertes, elles viennent, elles s'en vont, elles reviennent, elles sont ramassées. C'est un sujet, finalement, qui est difficile à voir, même quand on est habitant à Illion.
Non, il n'est pas difficile à voir. Les algues vertes, on va à Illion, on les voit. Il y a des plages qui sont fermées, mais parce qu'elles ne sont pas ramassées, parce que c'est compliqué, il y a des rochers, ils ne peuvent pas les ramasser. Du coup, la solution, c'est on ferme les plages. Super. Sauf que déjà, les habitants, ils ne peuvent plus profiter des plages, les touristes encore moins. Et la question, c'est aussi les oiseaux, les coquillages, les vers de sable. Eux, ils subissent aussi, en fait, tout ce préjudice causé par les algues. Quand on parle du vivant, c'est pas que l'être humain, c'est tout le vivant. Et du coup, quand la plage, elle est fermée, tout le monde en pâtit. Il y a des détecteurs de gaz pour l'hydrogène sulfuré. C'est super, c'est essentiel. Du coup, maintenant, on peut savoir s'il y a un risque ou pas. Mais sauf que là, on sait qu'il y a un risque. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ce risque? Pour l'instant, les réponses politiques, elles sont inexistantes.
On fait une pause musicale et puis on poursuit la discussion pour parler d'un autre modèle agricole ici en Bretagne avec le collectif Paysans de Nature. Mais avant ça, pause musicale, c'est le morceau Black Sea Weed par Mick Harvey.
Algae brown, red lace, stirring beneath the surface, black. Black seaweed. My loves have been the same. All I can now reclaim is black black seaweed. Like flowers torn away from the earth and in decay, like black seaweed. Picked up and cast aside by the sea after the tide, black black seaweed. My wounds reawaken to the crude gyration of black seaweed. God, she was a beauty, a siren and her duty, black rock seaweed. She had the sensuality and the taste and smell of rock black seaweed. I stole her innocence to the silent dissonance of ripe seaweed. Algae brown or red sways underneath the surface, black wreck seaweed. My loves have been the same, all I can now reclaim is black wreck seaweed. Like flowers torn away from the earth and in decay, like black seaweed. Picked up and cast aside by the sea after the tide, black wreck seaweed, black wreck seaweed, black wreck seaweed.
C'était Mick Harvey avec le morceau Black Seaweed, un titre sorti en 1997 et retrouvé sur l'album Pink Elephant, le deuxième disque solo de ce musicien australien, qui est en fait composé de reprises en anglais de morceaux de Serge Gainsbourg. Et là, il s'agissait du morceau Les Goémons. On est de retour en studio. Vous écoutez Canal B sur le 94.0 ou peut-être en ligne sur canalb.fr. Et je me tourne vers Florian Barbotin. Bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes membre de la LPO Bretagne, Ligue de Protection des Oiseaux, mais qui fait plus que de se préoccuper des oiseaux, une association qui fait partie du collectif dont on parle aujourd'hui, Paysans de Nature en Bretagne. Il vient de se lancer. Peut-être juste avant de parler de ce collectif, la LPO, je l'ai vu citer en ouverture du film Algue Verte qui est sorti le 12 juillet. On peut dire pourquoi en un mot, c'est pas forcément la LPO Bretagne?
Non, tout à fait, c'est la LPO France qui regroupe l'ensemble des LPO nationales, mais la LPO Bretagne est un organisme indépendant de la LPO France. La LPO a vocation, comme vous le dites, pas que des oiseaux, de la biodiversité de manière générale, et quand on s'occupe de biodiversité, on s'occupe d'agriculture en fait, tout simplement. Ça fait quelques années que la LPO a identifié le sujet agricole comme étant majeur dans la perte de biodiversité. En Bretagne, de manière spécifique, 60% des espaces naturels sont directement gérés par les agriculteurs et 80% des espaces naturels sont indirectement impactés par les pratiques. Donc quand on s'occupe des espaces naturels et de la biodiversité qui y habitent, on s'occupe d'agriculture. Les algues vertes ayant, comme l'a très bien montré la BD et le film, un lien direct avec les pratiques agricoles intensives, la LPO a décidé de mettre en avant ce film.
Est-ce que vous l'avez vu, ce film ?
Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu.
Pas encore.
J'ai lu la BD.
Je vous invite à aller le voir. Alors, juste en un mot, on redit aux auditeurs que la LPO, sa naissance, elle a un peu à voir avec la Bretagne, même si la structure, elle s'est développée ailleurs. Il a fallu attendre 2011 pour voir naître le groupe LPO en Ille-et-Vilaine, avec autour plein de groupes locaux. Et puis la régionalisation, elle est assez récente, puisqu'elle date de 2019. Dans les équipes, on a combien de personnes aujourd'hui ? Il y a des salariés, des bénévoles ?
Des salariés et des bénévoles. Donc, au niveau de l'équipe salariée, on était 3 en 2019 et aujourd'hui, nous sommes 18, donc il y a une croissance très importante de l'activité sur la Bretagne qui est justifiée par l'importance des défis à relever.
Est-ce qu'il fait de vous une des principales associations de protection de la nature dans la région Bretagne ? Alors le 5 juillet dernier s'est lancé un nouveau collectif breton dont vous faites partie, Paysans de Nature. Avant de dire qui on y trouve, ce que vous y faites, c'est quoi le point de départ à la création de cette nouvelle structure ?
Donc c'est une association nationale qui a émergé en Pays de la Loire, donc qui a été lancée par la LPO Pays de la Loire et plus spécifiquement en Vendée où il y a eu les premières expériences. Donc en fait c'est des anciens salariés de la LPO qui après plusieurs années d'activité en tant que naturaliste ont identifié en fait le métier d'agriculteur comme étant central. Ils se sont dit qu'ils auraient probablement plus d'impact pour défendre la biodiversité en tant qu'agriculteur qu'en tant que chargé de mission au sein d'associations de protection de la nature. Donc ils ont en Vendée commencé par acquérir des terres agricoles qui étaient dans le Marais breton notamment.
Le Marais breton, c'est pour expliquer aux auditeurs, une zone géographique humide sur une surface de 360 km² qui est située à cheval entre la Loire-Atlantique et la Vendée.
Ils les ont remis en eau, c'est des terres qui étaient drainées. Ils ont travaillé avec des races anciennes, notamment la maréchine, qui est une race de vaches pour la viande historique de cette région-là. Et ils ont essayé, ils ont mis la biodiversité, l'accueil de la biodiversité sauvage au centre de leur système d'exploitation, au même titre que la production agricole. Et ils ont démontré qu'ils arrivent à avoir des systèmes économiquement viables et très favorables à la biodiversité, puisqu'aujourd'hui, en marais breton, on accueille une des colonies majeures de barge à queue noire, par exemple, qui est en danger au niveau européen et qui a quasiment disparu du marais breton, avant qu'on retrouve des pratiques anciennes qui avaient favorisé le développement de cette espèce-là par le passé. Donc l'agriculture moderne avait détruit les habitats de cette espèce, et ils ont réussi à démontrer qu'avec les pratiques adéquates, la nature revenait bien volontiers.
La démarche, elle va donc maintenant être lancée ici en Bretagne. Concrètement, de quelle biodiversité sauvage est-ce qu'on parle quand on est aux abords de fermes bretonnes? On pense surtout à la faune, aux animaux, blaireaux, chevreuils, des oiseaux. Est-ce qu'il y a peut-être des espèces que vous ciblez particulièrement qui pourraient être en danger?
Alors oui, mais alors, si vous voulez, aujourd'hui, la situation est tellement grave, notamment dans les espaces agricoles, que même ce qu'on appelait la biodiversité commune, j'aime pas vraiment le terme, n'est plus commune en fait. L'ensemble de la biodiversité aujourd'hui a un caractère d'intérêt général et patrimonial, comme on dit. Donc si vous voulez, les constats de base, qui sont soulignés par l'IPBES. Hein. L'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité. Donc, c'est des grands experts qui sont vraiment très, très reconnus au niveau international. Il y a 1 million d'espèces sur 8 millions au total qui sont en danger d'extinction sur les prochaines dizaines d'années. Donc là, on parle de la biodiversité de manière générale. 80% des insectes ont disparu depuis 3 ans, notamment dans les espaces agricoles.
Petite rectification au montage, moins 80% d'insectes, c'est sur une période de 30 ans et non de 3 ans, comme dit à l'instant.
Et 30% des oiseaux, donc un tiers en Europe, ont disparu sur les 20 dernières années. Ça, c'est des constats qui sont indéniables, scientifiques, et il n'y a pas de débat autour de ce constat-là. Dans les espaces agricoles, des espèces qui autrefois étaient extrêmement communes, y compris moi quand j'étais petit, j'étais 35 ans, il y avait des alouettes des champs partout. Aujourd'hui, il y a la moitié des populations d'alouettes des champs qui a disparu dans les espaces agricoles. Sur d'autres espèces, notamment la perdrix grise, qui pareil était autrefois assez commune, 90% des populations ont disparu. Donc voilà, 30% des oiseaux de manière générale dans les espèces agricoles, ça peut monter très très haut pour certaines espèces. Donc non, c'est une catastrophe, mais rien n'est perdu, puisque quand on remet les conditions minimales à la vie pour se déployer, aux vivants pour se déployer, ils se déploient. Donc on a des marges d'action.
Autre déclin, on parle d'une autre espèce animale, à savoir l'agriculteur. Le déclin de la population d'agriculteurs est confirmé. Le nombre d'exploitations agricoles a été divisé par 4 en 50 ans. De quelle façon est-ce qu'un projet de retour de la biodiversité peut avoir un impact sur les gens qui font vivre cette agriculture?
Oui, en fait, si vous voulez, ce qu'on appelle le renouvellement des générations. Donc, c'est ce que vous soulignez pour nous. Et une fenêtre d'opportunité, en fait, on peut dire les choses un peu comme ça, puisqu'il va y avoir du foncier disponible. Et c'est aussi, soit ce foncier-là va partir à l'agrandissement, c'est-à-dire que les fermes existantes vont être de plus en plus grandes, puisqu'il y a de moins en moins de paysans. Donc, en gros, il y a la moitié des gens qui vont partir à la retraite, des agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans, vont être remplacés. Donc ça fait que soit les fermes existantes vont s'agrandir, soit on va installer de nouveaux paysans. Et quand on va installer de nouveaux paysans, notre objectif est d'installer des paysans qui vont avoir la biodiversité au cœur de leur système d'exploitation. Donc c'est on est optimiste, donc on considère que c'est
un cercle un peu vertueux aussi.
On peut en faire un cercle vertueux. L'agriculture, si vous voyez, elle est à la fois un allié de poids pour la défense de la biodiversité. Elle favorise très fortement la biodiversité quand les pratiques sont adaptées, et elle peut avoir des conséquences très néfastes, comme on le voit sur les pratiques intensives.
Dans ce collectif paysan de nature pour la région Bretagne, on y trouve à la fois des structures agricoles comme les groupements d'agriculteurs biologiques, les GAB, mais aussi des associations de préservation de la nature. Peut-être sans toutes les citer, mais dire qui on y retrouve, ce sont plutôt des acteurs déjà engagés, notamment dans l'agriculture biologique.
Le constat, il était double. Donc, c'est le rôle de l'agriculture, positif ou négatif par rapport à la biodiversité, et aussi, quelque part, la difficulté pour les associations de protection de la nature de préserver la biodiversité sans s'investir sur le champ agricole. Donc, à partir de ce double constat-là, on s'est dit, on va faire un collectif regroupant les deux acteurs, en fait. Le cahier des charges bio étant le cahier des charges minimum, je dis bien minimum, pour respecter et favoriser la biodiversité, on s'est tourné vers ces acteurs-là. Donc vous les avez cités. Et au niveau des associations de protection de la nature, Bretagne Vivante, hein, qui est active sur le sujet agricole depuis de nombreuses années maintenant, LPO Bretagne.
Le groupe mammalogique breton.
Le groupe mammalogique breton et tout un ensemble d'acteurs. Il me semble, donc on est 12, il me semble 5 associations de protection de la nature et 7 associations agricoles, si je ne me trompe pas.
C'est une liste qui est encore ouverte ?
Oui, bien sûr, c'est une liste qui est ouverte. Notre convention stipule que de nouvelles associations qui sont en accord avec l'objectif peuvent nous rejoindre à tout moment.
Le quotidien local Ouest France a titré à propos de votre collectif qu'il s'agissait d'une réconciliation entre agriculteurs et associations environnementalistes. Le titre m'a un peu fait sourire dans le sens où, vous le dites, ce sont des acteurs qui étaient déjà engagés dans des démarches plus durables d'un point de vue agricole. Est-ce que la difficulté, c'est d'aller chercher dans le secteur conventionnel ?
Je dirais que quand on réfléchit en termes de biodiversité, paysans de nature, c'est un dispositif qui s'adresse aux paysans qui sont volontaires sur cette question-là et qui, comme je l'ai dit, mettent la biodiversité, l'accueil de la biodiversité au centre de leur système de production et pas à la marge. Quand on utilise des pesticides, quand on utilise des herbicides, quand on utilise des fertilisants de synthèse, hein, il est difficile quand même de participer à un programme qui favorise la biodiversité. Ce qu'on peut faire, chacune de nos associations accompagne des agriculteurs conventionnels.
Dans de la conversion ?
Sur la conversion bio, mais pas forcément, sur l'aménagement d'infrastructures agroécologiques, sur des systèmes conventionnels. Ils vont enrayer le déclin, ils ne vont pas favoriser forcément la biodiversité sur leur ferme. Et il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Pour moi, il y a quand même un vrai enjeu de dire et de redire qu'on accompagne dans le sein de paysans de nature les agriculteurs qui favorisent par leur pratique la biodiversité. Mmh.
Votre projet, il se matérialise par une convention. Vous allez donc mener des actions très concrètes et qui sont plurielles. Il y a plusieurs choses qui vont être mises en place d'accompagnement pour donc suivre la biodiversité et puis avoir des aménagements qui la favorisent et puis trouver d'autres moyens de régulation plutôt que les pesticides, c'est bien résumé
Alors très concrètement, le paysan nature est constitué en groupes locaux. Donc c'est des groupes locaux de paysans qui sont resserrés sur des territoires, restreints à l'échelle des intercommunalités ou des pays, des petits territoires. Il y a les structures membres du collectif vont chacune animer un de ces groupes locaux en fonction des territoires où elles sont présentes, en organisant ce qu'on appelle les dialogues permanents pour la nature. Les dialogues permanents pour la nature, on appelle ça un dialogue et pas un diagnostic, parce que diagnostic, ça donne l'image d'un expert biodiversité qui vient et qui, de manière un peu verticale,
qui va faire un tableau, qui va compter des trucs.
Voilà, et qui va dire faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça pour favoriser la biodiversité, et parfois de manière déconnectée des objectifs agronomiques du pays. Donc la logique, elle est vraiment qu'il y a un dialogue entre le paysan qui est visité, les autres paysans du groupe, les naturalistes du territoire et les citoyens. C'est très important pour nous, donc naturalistes et paysans, vous aurez compris que c'est pour permettre une acculturation commune, le naturaliste qui va apporter des savoirs aux paysans, le paysan qui va faire comprendre ses contraintes, ses envies, ses objectifs aux naturalistes, donc aboutir à des pistes de réflexion qui sont cohérentes avec les objectifs du paysan, et le citoyen a un rôle extrêmement important là-dedans, c'est que on voudrait qu'ils comprennent à travers ces dialogues-là, donc sur les fermes, les liens entre agriculture et biodiversité, en quoi l'agriculture favorise, est un élément qui peut favoriser la biodiversité, et aussi qu'on puisse les mobiliser sur des chantiers sur les fermes. Donc suite à ces dialogues, on va pouvoir préconiser ici le creusement d'une mare, là-bas la replantation d'une haie, là-bas un mur en pierre sèche, enfin il y a plein de choses qui sont imaginables pour favoriser la biodiversité sur une exploitation. Parfois il y a besoin de main d'œuvre pour ça, donc on va mobiliser les citoyens du territoire,
les écoles,
les adhérents des différentes associations qui sont présentes dans le collectif pour réaliser ces chantiers-là. Et une autre chose qui est très importante, c'est que les citoyens sur les territoires, ils ont aussi de l'information foncière. Ah bah ma grand-mère, elle a un terrain agricole qu'elle souhaiterait mettre en gestion, mon père il est agriculteur, il va partir à la retraite, et donc avoir l'information foncière pour nous est extrêmement importante, puisqu'on souhaite favoriser favoriser l'installation de paysans engagés pour la biodiversité et reconquérir en fait ces terres agricoles pour en faire des espaces de renaturation paysanne, donc avec des objectifs de production et des objectifs de biodiversité. Et donc pour ça, il nous faut l'information foncière. Et on souhaite aussi mobiliser les citoyens du territoire, une fois qu'ils se seront acculturés, voilà, qu'ils auront compris les liens agriculture-biodiversité, pour faire du financement citoyen, pour faire l'acquisition de terrains fonciers. C'est ce qui marche très bien en Vendée, où Paysans de Nature existe depuis maintenant quasiment 10 ans. Il y a de l'acquisition de terres agricoles avec la mise en place de sociétés civiles immobilières par des citoyens qui vont servir de leur épargne pour acheter les terres agricoles.
Donc il y a de l'espoir ?
Moi, je suis très très optimiste.
Ah ouais ?
Oui, je suis très optimiste parce que je pense qu'il y a quand même aujourd'hui la société de manière générale, en tout cas l'information est en demande d'une protection de la biodiversité. Les naturalistes, qui avaient été pendant longtemps, qui n'avaient pas accès aux espaces agricoles, ont la volonté très pressante d'avoir accès aux espaces agricoles. Et les agriculteurs ont envie de montrer ce qu'ils savent faire pour la biodiversité.
Même si aujourd'hui, je crois que c'est 10% des agriculteurs en Bretagne qui, en tout cas, sont en agriculture biologique, même si ce n'est pas le seul facteur. Voilà, ça reste quand même une petite proportion. Ce qui manque, c'est quoi ? C'est le soutien politique, notamment. Je ne sais pas si une initiative comme la vôtre est soutenu politiquement ?
Alors pour moi, il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est qu'on est en train, donc le collectif Paysans de Nature, de demander un soutien politique et financier à la région. On le fait en essayant d'avoir un soutien commun entre le service agriculture et le service environnement. Qui est quelque chose qui n'est pas forcément habituel. On souligne en tout cas qu'on est en cohérence avec les politiques publiques régionales. Puisqu'aujourd'hui, la région, dans le cadre des états généraux de l'installation transmission, a mis en place ce qu'on appelle les contrats de transition. C'est-à-dire qu'au moment où on s'installe, au moment où on transmet sa ferme, on peut signer des contrats de transition quand on a des objectifs de protection de la biodiversité. On est en cohérence avec le plan bio porté par la région. On est en cohérence avec le plan accueil à la ferme aussi, qui est porté par la région, qui veut ouvrir les fermes aux scolaires et au grand public. On est en cohérence avec les trames vertes et bleues, donc les contrats nature des trames vertes et bleues qui sont portés par le service environnement de la région. Donc voilà, on essaie de leur montrer ça. Juste, je voudrais quand même résumer les objectifs de Paysans de Nature. La philosophie, c'est de faire des fermes des espaces agricoles naturels. Il n'y a pas de contradiction entre biodiversité et cycle biologique et production agricole. Du néolithique jusqu'en 1950, on a fonctionné comme ça. C'est une parenthèse qu'on vit. L'agriculture déconnectée des cycles naturels et fonctionne sur des procédés issus de la chimie est une parenthèse.
C'est intéressant de le voir comme ça. On espère que la parenthèse va bientôt se refermer. Je vous représente tous les deux, Florian Barbotin. Vous êtes donc membre de la LPO Bretagne, la Ligue de protection des oiseaux, qui participe au lancement de ce nouveau collectif qu'on a présenté, Paysans de Nature en Bretagne. Je peux peut-être donner le contact email pour vous joindre si on est intéressé par la démarche. bretagne@paysansdenature.fr. Et encore merci à Yann Offray qui est toujours avec nous en studio pour votre témoignage. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Bel oiseau blanc du bout du monde, fils de demeure, fils du pays, rebelle semblante entre deux mondes, tire d'ailes sanglantes de quel pays? Feu noir sur trois abers, sang noir sur dix espères, sait-il les faire en pluie? Battu devant, flottant bastion, battu devant, flot, tourbillon, battu, battant, sans pavillon, soleil levant, noir, sans rayon. Noir, l'eau, le feu, la terre, noir, de feu, les deux airs, le vent, la brume aussi. Mer est en brume, soleil d'effort, terre est en brune, vieille d'effort. Poisson changeant en dix corneilles, poisson sanglant en dix orteils, pigeon de feu sur mer, poison de gueux sous mer, sait-il les faire en pluie? Morte saison sans floraison, morte maison sans déraison. Saison perdue en oraison, moisson perdue sans rébellion. Fenaison en hiver, fenaison en désert, Grésil de fer en pluie. Discours de feu, discours de veau, concours de peu, discours des veaux, secours de peu, fut-il travaux, séjour de feu pour mille chevaux. Moi, langue des vipères, noire lande de colère, les vents, les hommes aussi. Mille malos rues, chant de l'épée, mille noirs statues, noirs policiers, mille points tendus, 10 points brisés, mille brins tendus pour mille années, 100 000 hommes en colère, 1000 hommes sans la mer, sans l'armée faire en pluie. Morte tribu sans héritier, porte tribu sans à payer, soleil fendu, bois condamné, soleil vendu, loi sont damnées. Autant que meurt la mer, autant se meurt la terre, sous peur, souffert en pluie. Jour de demain, courage ardent, jour de sa main, courage aux dents, seront les veaux perdants sans blanc, seront les loups perdants sans dents. Rouge fin, rouge à vert, rouge point, rouge guerre, rouge main, rouge serre, rouge festin, rouge chair, rouge vin, rouge bière, le feu.
Triane et son soleil noir sur Canal B, un morceau à retrouver sur l'album Urba qui est sorti en 1978. C'était le 9e disque de ce groupe français né à la fin des années 60 du côté de Nantes. Et on retrouve donc ce morceau qui fait écho au naufrage de l'Amoco Cadiz dans le Finistère. Et tiens, petite anecdote, à l'époque, le réalisateur d'Algues Vertes, Pierre Jolivet, qui animait une émission sur France Inter, a été tout simplement viré avec son frère Marc Jolivet pour avoir plaisanté sur ce sujet. On poursuit cette émission de Boule Vanille à l'occasion de la sortie au cinéma du film Algues Vertes. Et on le redit, même si l'Agence régionale de santé bretonne a du mal à le dire sur son site internet, la prolifération des algues vertes depuis les années 60, elle est bien en lien avec le modèle agricole breton, modèle intensif. Je vous propose d'écouter un extrait de l'échange avec le journaliste Nicolas Legendre. On avait parlé ensemble de l'omerta autour des conséquences du modèle agricole productiviste, évoqué dans son livre « Silence dans les champs », c'est sorti au printemps 2023 aux éditions Artaud. Et puis, il nous avait donc présenté cet ouvrage dans une interview diffusée dans l'émission d'Info Locale le 16 mai dernier, que vous pouvez toujours retrouver dans son intégralité en ligne sur canalb.fr/larenne. Dans l'extrait là qui arrive, vous entendrez aussi la voix d'un lecteur de ce livre « Silence dans les champs » qu'on recommande. Tiens, ce lecteur, c'est Jean-Sébastien Piel, il est paysan tout près de Rennes.
Au départ, j'avais que des rumeurs parfois, j'avais que des bribes d'informations, certains témoignages remontaient à un certain nombre d'années, donc il y avait peut-être prescription, et ensuite c'était aussi difficile parce que je pense un certain nombre de gens qui ont pu subir tout ça, qu'il s'agisse de paysans ou de militants environnementalistes, c'est des choses qui ont été intériorisées en fait. Qu'ils ont considéré comme étant non pas acceptable, mais en tout cas ça faisait partie de leur ça faisait partie de la vie quoi. C'était comme ça. Ils étaient par exemple paysans encartés dans un syndicat minoritaire. On leur a fait les pires misères pour l'accès au crédit ou au foncier, mais finalement il y avait pas de guichet où se plaindre. Et c'était comme ça quoi. Et donc il a fallu déjà trouver aller à la rencontre de gens qui avaient pu subir ce genre de choses. Je précise que c'est pas systématique, c'est-à-dire que tous ceux qui ont fait un pas de côté ou qui ont critiqué le système dominant n'ont pas subi ça. Et donc il a fallu les rencontrer. Ensuite il a fallu les faire parler. Et parfois, pour certains, leur faire se rendre compte
que c'était pas normal,
que c'était anormal et que ça participait à quelque chose qui était qui ne les concernait pas qu'eux et qui était peut-être systémique.
Dans l'ouvrage, on croise Ali Romdani, qui est sociologue, qui, plutôt que d'ordre mafieux, préfère parler d'ordre social breton, même s'il explique qu'on retrouve des ressorts propres au système mafieux. Moi, j'ai en tête les menaces assez récentes qu'a subies une journaliste en radio locale dans le Finistère, membre au passage de la Corlab, dont Canal B fait aussi partie. Elle travaille sur les mêmes sujets que vous, songe d'ailleurs à arrêter, suite notamment à des actes de déboulonnage sur sa voiture. Quand on plonge dans un tel travail d'enquête sur plusieurs années, comment est-ce que le journaliste, lui, il cohabite avec ses ombres, pour reprendre le mot que vous employez souvent ?
Il dort mal, déjà. Et ensuite, non, mais concrètement, j'ai pris des précautions dans mes méthodes d'enquête, dans la protection de mes sources, notamment. Et puis, je suis resté vigilant, quoi, tout au long de l'enquête, et je le suis toujours. Après, j'ai pas subi ni pression, ni menace, ni représailles à ce stade. Et tant mieux. On n'enquête pas sur la mafia sicilienne. Faut toujours le redire. C'est certainement nettement moins dangereux. Néanmoins, effectivement, il y a un ordre social qui fait que qu'il y a des formes d'autocensure dans la société bretonne, des formes de pression aussi sur certaines des personnes qui mettent en lumière les dérives de ce système. Donc, ça peut être compliqué.
Un des personnages qu'on croise dans le livre le dit, on le lit aussi en quatrième de couverture, c'est pas la Corse ici, on te tue pas, c'est plus subtil, c'est sournois, la peur, point de suspension. Je conseille vraiment la lecture de ce livre, Silence dans les champs, sa force, c'est la multiplicité de témoignages au sein mais aussi hors du système conventionnel. On croise évidemment des paysans ou des exploitants agricoles selon la façon dont ils se considèrent, mais aussi des élus, des professionnels, vétérinaires, banquiers, fonctionnaires. À plusieurs reprises, Nicolas, vous déboulonner le mythe de la Bretagne qui serait une région agro-industrielle un peu par nature qui ne pourrait pas fonctionner d'une autre manière, notamment en portant la voix de ceux qui se sont opposés au système majoritaire. Et on finit ainsi la lecture pas très loin de Rennes, à Saint-Perne. Jean-Sébastien Piel, c'est votre ferme, la ferme du pressoir qu'on découvre. Elle ressemble à quoi aujourd'hui cette ferme ? Peut-être pour la présenter aux auditeurs.
La ferme du pressoir à Saint-Perne, nord-ouest Lévilaine, c'est une ferme sur 68 hectares de céréales, de protéagineux conduits en agriculture biologique, avec un élevage de porcs en bio plein air. On est 5 sur la ferme. La ferme a beaucoup évolué depuis 1976, date à laquelle mon papa Michel, qui témoigne dans le livre de Nicolas, a évolué. Il est parti, en tout cas, de système classique hors sol, aliéné au système agroalimentaire où on n'est aucune décision, aucun choix, aucune orientation, à un système où aujourd'hui on est hors système. Et ça, c'est quelque chose qui a évolué depuis 40 ans sur la ferme. Mais par rapport à ce qui est dit régulièrement dans les témoignages, ce qui nous sauve, c'est notre silence. C'est redit à plusieurs reprises, que ce soit par des ouvriers, des abattoirs, que ce soit des techniciens, des élus, des paysans ou des paysannes. Notre histoire sur la ferme, c'est de pas avoir été silencieux, d'avoir dénoncé, lutté, agi et proposé des choses collectivement. Et ça, c'est une force, parce qu'on voit bien la casse sociale et le plan de licenciement, en tout cas à forte échelle en fait de la Bretagne au niveau du monde paysan, mais aussi des conditions en fait salariales qui sont plus ou moins mis en avant aussi dans le livre et dans plusieurs ouvrages depuis un certain nombre d'années. Donc comment on agit collectivement pour peut-être adapter les projets actuels, le système actuel, et montrer qu'il est possible de proposer d'autres formes collectives de coopération qui aujourd'hui, on voit bien en fait que c'est on arrive au bout d'un système, un système à bout de souffle.
« Jean-Sébastien Piel, paysan près de Rennes et membre de la Confédération paysanne qu'on avait reçu en studio avec le journaliste Nicolas Legendre pour l'ouvrage Silence dans les champs. On va terminer cette émission spéciale Algues vertes. J'aurais en tout cas enchaîné des sujets très joyeux moi cet été avec deux recommandations dans le prolongement du film. C'est à voir et à écouter sur la plateforme cubeweb.media. Il y a d'abord ces deux documentaires sonores signés Inès Leroux, la journaliste et héroïne malgré elle du film Algues vertes. Ce printemps 2023, elle a réalisé deux épisodes pour l'émission Les Pieds sur Terre diffusée sur France Culture. Et avec Éleveur enchaîné et Déboulonnage en terre agro-industrielle, eh bien elle continue à explorer nos fermes et nos champs bretons, extraits en forme d'écho à l'alerte du journaliste Nicolas Legendre, toujours sur ce sujet de l'intimidation de ceux qui osent critiquer le modèle agricole breton dominant.
Au mois de juin 2022, le jour des élections législatives, il avait beaucoup plu toute la journée. Pour aller voter, on traverse notre cours d'eau, et là, une odeur infecte, et on voit le maire. Je lui dis, écoute, y a un souci, le cours d'eau n'est pas net du tout, ça sent très mauvais, quoi. Il me demande de discuter avec l'adjointe à l'environnement pour voir si elle pouvait venir. Mais malheureusement, elle pouvait pas. Et du coup, j'ai fait un prélèvement dans une bouteille d'eau minérale dans l'idée de lui le fournir le lendemain. Et le lendemain, en fait, le prélèvement, elle a pas voulu le prendre en disant qu'il n'était pas recevable, que j'ai dit, c'est dans une bouteille d'eau minérale, il n'y a pas de souci. J'avais mis au frigo comme il fallait. Et je dis, bon, bah, ok, à qu'à cela ne tienne, je suis moi-même allé chez LaboCEA, laboratoire d'analyse biologique basé à Brest. Et de mémoire, je crois que là, on était à 80 000 de E. coli dans le ruisseau.
Bactéries Escherichia coli, donc des bactéries fécales.
Ouais, tout à fait. Ah, ouais.
80 000, c'est 80 fois le seuil maximal pour les eaux de baignade.
Pour les eaux de baignade, sachant qu'on est à 100 mètres de la plage. J'ai continué à faire des prélèvements. Entre juin et septembre, aucune de mes analyses n'est revenue conforme. Avec un pic au mois d'août, alors là, c'était le fiasco total, on était à 230 000.
Soit 232 fois la norme maximale pour les eaux de baignade. À cette période, la mairie accepte de financer des recherches d'ADN dans les échantillons, ce qui permet de mettre en lumière la source de la pollution par les bactéries fécales. Des traces humaines liées aux stations d'épuration pas aux normes sont retrouvées, des traces de ruminants aussi, mais surtout d'importants marqueurs porcins.
Très rapidement, au mois de septembre, le maire m'a dit écoute Fabrice, on ne peut plus, j'avais dû faire 5-6 prélèvements, on n'a plus de budget. Donc on a arrêté de faire les marqueurs. Moi, j'ai continué à faire des prélèvements. A priori, là, je commence à avoir pas mal de données et mon constat, il est que la pollution, elle est sévère, chronique et structurelle. Et que bizarrement, elle s'arrête en hiver. En hiver, il n'y a plus d'épandage. Et les pires chiffres sont le printemps et l'été. Où là, on est en dizaines de milliers, en moyenne. Depuis le début, je paye des analyses. C'est une autre contribution à la collectivité, on dira. Fin d'année dernière, j'ai moi créé un compte Instagram que j'ai appelé Beautiful. Donc, qui est un jeu de mots sur le mot beautiful en anglais qui veut dire très joli. Et Foul, qui est le nom de notre rivière. Donc, j'ai commencé à communiquer. Quand je vois ça, des tas de fumier au-dessus de rivières, leur liquide immonde qui s'écoule dans le cours d'eau en ligne droite, je publie ce genre de photos. Le 4 mai, nous nous rendions au cinéma sur Brest en famille et on a entendu un barouf pas possible à l'arrière de la voiture. C'est pas une voiture récente, donc je suis moi assez habitué à ce qu'elle fasse du bruit, mais là le bruit était pas normal et on s'est arrêté sur le bas-côté de la route. En fait, tu avais, Stéphanie, toi, eu une prémonition. Tu m'as dit, va voir les roues. Et effectivement, un doulon m'est venu dans la main. Il allait tomber. C'est lui, je pense, qui était en train de vibrer. Il faisait beaucoup de bruit. Et deux autres boulons étaient dévissés. Moi, je pouvais les enlever à la main, quoi. Ils étaient quasiment prêts à tomber aussi. Il n'y avait qu'un seul boulon qui, lui, n'avait pas été desserré.
C'était un extrait du documentaire « Déboulonnage en terre agro-industrielle » à retrouver sur cubeweb.media et puis sur le site de France Culture. Deuxième conseil de choses à regarder rapidement, il s'agit du court-métrage « En sortir » de Thierry Machard qui est sorti en 2020. Dans le rôle principal, Philippe Torreton qui incarne l'impasse dans laquelle se trouvent de nombreux agriculteurs. L'ambiance est lugubre et la caméra nous balade dans une ferme qui, on le comprend, vient de subir une saisine immobilière. Et le propos du réalisateur qui vit en Bretagne depuis 20 ans, bien il est terriblement politique. En témoignent les chiffres sur lesquels se termine ce court-métrage. 30% des agriculteurs gagnent moins de 350 euros par mois. 50% des exploitations sont en déficit et chaque jour, un agriculteur se suicide en France. Le court-métrage, si vous souhaitez le regarder, il est à voir en accès libre. Ça, c'est chouette sur la plateforme Cube. kubweb.media, il dure 20 minutes. Allez, je vous laisse là-dessus. De Boulevani, c'est terminé pour aujourd'hui. Une émission d'été qui est concoctée par les membres de l'équipe de Canal B, qui est à écouter du lundi au vendredi à chaque fois à 17h. Je vous souhaite un bel été et puis surtout de garder les yeux grands ouverts sur la façon dont fonctionne notre société, notamment bretonne. Allez, à bientôt.